Bonsoir.
Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Le point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui veut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. Non, on parlera pas d'élections municipales. Tout ça, c'est derrière nous. Ça a été réglé hier. Donc, félicitations à tous ceux qui se sont impliqués en politique municipale. Tout le monde aussi qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines pour être élus. Vous avez travaillé fort. On vous salue. Même chose pour ce qui est des nouveaux maires et mairesses. On vous salue aussi. Puis les maires et mairesses qui se sont fait réélire, on vous salue. Bon, tout le monde est salué. On passe à d'autres choses pour ce qui est de ce soir. Juste avant de te présenter mon invité de la soirée, on va regarder ce qui se passe côté météo. 5 à 10 mm supplémentaires. Il y a plus pour une bonne partie de la journée dans la grande région de Québec et ça va se continuer. Genre de 20 mm là, qu'on a total tout pour aujourd'hui, ce soir et cette nuit, minimum de plus 4 degrés. Demain mardi, c'est le retour du soleil parsemé de nuages, peut-être des averses en après-midi. Encore là, on a 40% des rafales à 40 km/h, maximum de 8 degrés. En soirée, ciel dégagé pour demain, minimum de moins 1. Et mercredi, à plus long terme, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de 6 degrés. Mon invité de ce soir, c'est le même. À chaque lundi, c'est Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, avec qui on parle de dossiers de SAAC, des vagues de CNSST, mais beaucoup de dossiers qui touchent l'actualité. Merci d'être là. Je pèse sur le piton, puis ça part.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous encore une fois ce soir. Maître Bellemare, comment allez-vous?
Ça va bien?
Oui.
Et toi?
Oui, ça va bien.
Une belle fin de semaine?
Oui, ça a bien été de ce côté-là, je peux vous le dire. Par contre, j'aimerais pas ça être dans les culottes de François Legault. Je peux vous dire que lui mène un méchant quart d'heure ces temps-ci. Il passe un méchant quart d'heure avec la démission de M. Carman la semaine dernière. M. Carman qui reste quand même député. Avec respect, il avait promis de faire son 4 ans, donc je le respecte beaucoup. Décidé de démissionner de son poste de ministre parce qu'il juge que, bon, sa fille est médecin, sa conjointe est médecin et c'est très dur à la maison. Donc, pour des raisons familiales, il décide de quitter son poste. Faudrait juste, Maître Bellemare, savez-vous quoi? Faudrait juste que tous les ministres aient, je sais pas moi, quelqu'un qui est en attente d'une chirurgie. Faudrait tout que les ministres aient quelqu'un qui a de la difficulté, qui est professeur d'école, exemple, pour améliorer les choses. C'est assez particulier ce qui se passe, là.
Oui, il y a eu un temps où il y avait beaucoup d'enseignants. Aujourd'hui, je sais pas, il y en a peut-être quelques-uns dans le PQ puis dans les Québec solidaire, mais les libéraux ont un certain succès dans le recrutement dans les milieux d'affaires en général. Le Parti québécois, c'est plus intellectuel un peu. Mais tu as raison, s'il y avait des patients dans toutes les maisons, j'ai tout souvent dit, moi, qui représente les victimes d'accidents, s'il y avait des accidentés dans toutes les maisons, ça faciliterait la tâche, mais je pense que dès qu'ils sont élus, ils sont un peu déconnectés de ça et ça a un bon côté dans le sens que ça leur assure une certaine indépendance. Il ne faut pas non plus qu'ils soient gérés par les émotions seulement. Mais un peu plus d'émotions, ça pourrait peut-être aider. Tu sais, quand tu rentres en politique, là, tu rentres dans des réunions interminables, tu rentres dans des caucus, tu travailles dans un établissement aseptisé, les plafonds de 14 pieds, les grands couloirs sombres et échos. Et ça ressemble pas beaucoup à ce qui se passe sur la rue Sainte-Catherine ou sur la rue Saint-Jean, malheureusement.
vous avez l'impression que certains politiciens sont un peu déconnectés de la société en raison de leurs horaires de travail, des gens qu'ils rencontrent. Ils ont peut-être un peu moins de temps à passer avec les gens ordinaires comme leur famille, comme leurs amis.
Mais ça montre aussi, dans une certaine mesure, que cette réforme-là, c'est la réforme de Christian Dubé et de François Legault. François Legault était ministre de la Santé un certain temps et je pense qu'il en a eu plein son casse du pouvoir des médecins. Il a gardé une petite crotte autour de ça. Il s'est dit, il faut qu'on change le mode de rémunération. Les médecins ont trop de pouvoir au Québec. Si on ne change pas le mode de rémunération, on ne changera jamais le système de santé. On n'en sortira jamais. On va toujours avoir 1,5 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. On va toujours avoir des listes d'attente interminables. Et une fois rendu au pouvoir, là, il voit que M. Dubé est un homme de chiffres, un homme de colonne de chiffres, puis il dit « on va faire la réforme de la santé ». Maintenant, ça commence par les médecins, là, mais écoute, c'est sûr qu'il y a un problème de connexion. Et si on pouvait blâmer à certaines époques Gaétan Barrette, puis Philippe Couillard, puis le docteur Bolduc d'être des médecins ministres de la Santé, parce que longtemps on a pensé ça, on s'est dit « ah, Gaétan Barrette, il s'en va ministre de la Santé, il va tout donner aux médecins ». Couillard, c'est un médecin, il va tout donner aux médecins, c'est des spécialistes en plus. Yves Bolduc, il va tout donner aux médecins, c'est un médecin. Alors là, on n'a pas un médecin, on a un comptable, on a un gestionnaire, on a M. Dubé, mais peut-être que lui, il est à l'autre bout du spectre finalement. Là. Lui, il regarde plus les chiffres que la qualité des services, il regarde plus le quantitatif que le qualitatif. Puis on se retrouve avec une problématique significative au niveau des médecins. Deux choses que j'ai observées, moi, au cours de la dernière semaine, c'est que les médecins sortent, on les voit partout. Mais ça se fait qu'ils n'ont pas sorti avant. Avant, c'était les fédérations de médecins, c'était les syndicats de médecins qui parlaient. Aujourd'hui, là, tu écoutes les lignes ouvertes, tu écoutes les entrevues, encore, j'écoutais des entrevues que tu donnais il n'y a pas longtemps. C'est des médecins qui parlent, puis qui donnent des entrevues. Cardiologues, neurologues... obstétricienne, une clinique qui ferme à Québec, on entend parler de ça, même au téléjournal à Montréal, il y en a des questions la semaine dernière. Alors là, les médecins sortent, puis ils ne parlaient pas avant, c'était les syndicats qui parlaient, puis là, c'est les médecins individuellement qui nous disent comment ça marche dans leur clinique, comment ça... Parce que toi, en dehors des médecins qui t'ont soigné puis qui t'ont donné des consultations au fil du temps, tu ne sais pas ce qui se passe dans une clinique médicale, mais là, on le sait un petit peu plus parce qu'ils nous parlent. Mais c'est quand même un peu malheureux qu'il ne nous ait pas autant parlé du terre-à-terre, du B.A.B.A. de la médecine au Québec avant la loi numéro 2, avant que le gouvernement passe sa loi spéciale. À ce moment-là, peut-être que le gouvernement aurait eu un peu plus ressenti un peu plus de gêne avant de passer le bulldozer. Là,
mais c'est très autoritaire la façon dont ils ont fait ça. Mettre une loi spéciale, après ça, dire aux médecins, si vous vous associez puis vous tentez de convaincre d'autres médecins de partir, ben là, vous allez avoir des problèmes, on va vous donner des amendes. C'est très autoritaire. J'ai l'impression qu'ils ont pris exemple sur le voisin du Sud là, avec un teint un peu plus orangé pour après ça dire, ben savez-vous quoi, on a passé une loi spéciale, mais sur les tarifs, on peut peut-être s'entendre de façon différente avec nos médecins. La façon dont ils ont fait ça, c'est insultant. Là. Puis de voir ce que Doug Ford, la semaine dernière, il dit, ben savez-vous quoi, si vous n'êtes pas heureux au Québec, venez chez nous, on va vous accueillir. On a des communautés francophones. C'est fâchant de voir ça. Puis en bout de ligne, vous dites, ah, OK, on entendait les syndicats de médecins, Maître Bellemare, puis c'est correct. On entendait le ministre de la Santé, puis c'est correct. Mais moi, je suis un patient dans la vie. Là. Qui est-ce qui me représente dans ces négociations-là entre des hommes qui sont extrêmement puissants puis de l'autre côté, des gens qui gagnent des centaines et des centaines de milliers de dollars par année? Moi, je suis là puis je veux juste me faire soigner. Quand je vais à l'urgence, je ne veux pas attendre 8 heures ou 9 heures. Quand j'ai une chirurgie qui attend, je ne veux pas que ce soit une chirurgie de 12 mois, 18 mois. Qui est-ce qui me représente actuellement dans les négociations entre le gouvernement du Québec et les médecins? Personne.
Oui. Ben, c'est supposé être le gouvernement, mais le gouvernement, il a un peu perdu de sa saveur quand ça fait 3 ans et quelques qui sont au pouvoir.
Mais la loi spéciale, Maître Bellemare, ouais. Est-ce qu'on devait la mettre en place là? Est-ce que c'était pressant?
Oui. Il paraît. Ça a été le calcul du gouvernement, mais moi, j'ai toujours compris que la loi spéciale, il l'avait votée à cause des moyens de pression qui sévissaient de la part des médecins au niveau de la formation de nouveaux médecins. On nous disait qu'il y avait 1000 médecins potentiellement gradués au cours des prochains mois qui allaient peut-être manquer le bateau, puis on allait être privé de 1000 médecins pendant à peu près un an. Alors, j'ai toujours pensé que c'était la raison pour laquelle il y avait un baillon, une loi spéciale, mais peut-être qu'au fond, c'était plus un prétexte qu'une raison. Mais là, il reste qu'on se retrouve dans une situation extrêmement problématique, jamais vue finalement dans notre médecine publique au Québec, où là, il y a des médecins qui quittent. Alors, est-ce qu'ils vont quitter? Je ne le sais pas. Moi, j'en connais des jeunes médecins qui ont quitté. La plupart de ceux qui ont quitté, parce que ça fait quand même une quarantaine d'années que je pratique comme avocat dans le domaine médico-légal. Là, je parle à des médecins quotidiennement. Moi, j'ai besoin de médecins pour plaider mes causes, faire la preuve des dommages devant les tribunaux, etc. Donc, je travaille avec des médecins constamment. Et je te dirais que là, la problématique qu'on vit au niveau des déménagements, j'en ai connu qui ont quitté seuls rapidement. Quand tu as 28-30 ans, puis que tu as un petit bébé ou deux bébés, mais que tu as une famille naissante, là, c'est possible de déménager. Parce que comprenons bien que la médecine, c'est exportable. Selon certaines conditions, là, on va te demander de passer une couple de tests, là, mais tu sais, tu n'arrives pas du fond de l'Afrique, tu sais, tu n'es pas dans un pays où il y a une médecine douteuse, tu es quand même formé au Québec. Alors, les médecins québécois sont de bons médecins, ils sont appréciés, ils sont pour la plupart bilingues, sinon trilingues. Alors, c'est des gens cultivés, c'est des gens qui sont allés à l'école, c'est des gens qui avaient des facilités importantes au niveau de l'apprentissage, qui connaissent la science, qui connaissent la médecine et qui ont un certain entre-gens. Alors, ils ont des grandes qualités humaines pour graduer en médecine. Alors, à 30 ans, tu peux quitter et t'en aller en Nouveau-Brunswick, tu peux t'en aller en Ontario ou en Colombie-Britannique ou même aux États-Unis. Mais quand tu as 42-43 ans, tu as des enfants à l'école, au secondaire, qui sont déjà intégrés, qui ont des amis, qui ont des sports, puis là, t'en aller à 3000 km de chez vous dans une société complètement différente, c'est pas fait. Mais actuellement, on dit qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites, surtout en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis en Colombie-Britannique. On verra bien ce que ça va donner. C'est peut-être juste des menaces. Et le fait de demander une affectation dans une autre province ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont véritablement quitter. Mais je trouve que le premier ministre ontarien fait preuve d'un sans-gêne assez incroyable, parce que il n'était pas obligé de faire ça, Doug Ford. Là. Il aurait bien pu rester chez eux puis laisser faire les médecins. Ils savent, les médecins, que l'Ontario, c'est à côté, puis ils savent qu'ils peuvent faire une demande pour pratiquer en Ontario. Il y en a déjà beaucoup qui pratiquent en Ontario, des médecins québécois. Mais là, en faisant un point de presse, puis en commençant à dire que les Québécois sont gentils, puis qu'ils sont fins, puis on avait l'impression d'être dans le Lovin de 95 dans le temps du référendum. Tout à coup, Doug Ford nous dit qu'on est fins puis qu'on est gentils, comme si on ne le savait pas. Puis là, il va chercher des médecins. Écoute, il y a un appauvrissement important pour le Québec. Oui. Un médecin quitte. Non seulement un appauvrissement en termes d'effectifs, en termes de qualité et d'accessibilité aux soins de santé, mais il y a un appauvrissement parce qu'on a payé pour former ces médecins-là les yeux de la tête. Les formations universitaires en médecine coûtent pas mal plus cher que les formations en droit. T'sais. En médecine, tu as des laboratoires, tu as des produits... techniquement, c'est extrêmement compliqué. Tu as des classes réduites, tu as des autopsies, tu as toutes sortes de travail de laboratoire. En droit, tu mets 300-400 étudiants dans une salle avec un professeur en avant, puis la job est faite. Tu as juste besoin d'un local. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros équipement. Alors, former des étudiants en médecine, c'est long et c'est coûteux. Et là, en faisant les beaux yeux aux médecins québécois de façon très explicite, en disant « appelez-moi personnellement en plus sur mon cellulaire », Doug Ford vient de donner un coup au Québec. Moi, je n'ai pas trouvé ça, je n'ai pas apprécié. Puis je me demande qu'est-ce qu'il cherche, parce que Doug Ford, moi, je l'ai toujours trouvé sympathique. C'est un bon bonhomme. Il n'est pas élu pour sa grande intelligence. Il est élu par sa bonhomie, son côté convivial. Il va rencontrer des groupes, il va prendre une bière avec le monde. C'est un gars de terrain. C'est un politicien habile. Mais là, je ne sais pas ce qu'il cherche. Là. Il veut-tu vraiment affaiblir le Canada? Il veut, parce que le Québec, comment tu penses que les Québécois réagissent face à ça?
Non, mais les Québécois sont fâchés et sont apeurés là, de voir que des médecins pourraient quitter. On en manque de médecins au Québec, de voir qu'ils pourraient quitter pour l'Ontario. Au point de vue éthique et moral, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Doug Ford, c'est épouvantable ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il a le droit de le faire. Est-ce que les Ontariens, quand ils ont vu Doug Ford demander aux médecins québécois s'ils ne sont pas heureux, ils viennent chez nous en Ontario, puis on va vous accueillir, puis on va être content de vous accueillir. Je pense que tous les Ontariens étaient heureux de voir leur premier ministre faire une affaire de même. Mais au point de vue éthique et moral, puis comme vous dites, c'est nous qui avons payé pour la formation de ces médecins-là, de voir que certains pourraient répondre à l'appel. Là, actuellement, la semaine dernière, on parlait de plus de 200 médecins qui auraient fait leur demande de quitter le Québec. Puis ça va, c'est un chiffre qui va probablement monter au travers du temps si la crise ne se règle pas. C'est une catastrophe pour le Québec. Là. On a de la misère à se faire soigner, puis là, les médecins qui chicanent avec la CAQ, la CAQ qui chicane avec les médecins, loi spéciale, Doug Ford qui dit aux médecins, venez-vous-en chez nous. Il n'y a personne, personne qui représente le patient. Et ça, vous n'avez pas idée à quel point ça m'écœure. Il n'y a personne qui, nous représente actuellement. Et personne. Ça va juste continuer. On va juste continuer de subir. On est un peuple de moutons qui subit les décisions du gouvernement. On l'a vu pendant la COVID, puis on le voit encore là actuellement. Vous avez parlé de la souveraineté tantôt, la semaine dernière. C'est quoi? On se remémorait ce qui s'était passé en 1995, où le Québec a dit non, et non, on ne se séparera pas. Et il y avait beaucoup de gens dans mon équipe de travail qui étaient dans le camp du oui. Moi, à l'époque, j'étais un petit peu en dessous de 20 ans de mémoire et j'étais au cégep. Je me souviens encore où j'étais. Puis Maître Bellemare, j'étais dans le camp du oui. Puis j'avais pas encore vraiment payé d'impôts et de taxes, là, ce qui faisait en sorte que c'était plus facile pour moi d'y aller avec ma pensée plutôt que d'y aller avec le rationnel. Aujourd'hui, je suis encore à convaincre. Les gens pourraient, un gouvernement pourrait peut-être me convaincre qu'un jour le Québec devrait être viable. Mais actuellement, on est encore sur un nuage, là, puis on rêve. Puis le Québec, il va être bien, le Québec, quand il va être séparé, quand il va être un pays. On a de la misère à payer nos services. On est endetté comme pas possible. Le dollar loisir, il n'existe pratiquement plus, Maître Bellemare. Ce serait-tu le temps pour Paul Saint-Pierre Plamondon de repartir avec un autre référendum? Vous faisiez quoi, vous, dans le temps du référendum en 1995? En fait, vous avez vécu les deux tout comme moi, mais le premier, j'étais trop jeune.
Moi, j'ai voté oui les deux fois.
Oh!
J'ai voté oui en 80. J'ai même milité pour le référendum. À l'époque, j'étais membre même de l'exécutif du Parti québécois dans le comté de Taschereau. Alors, il y avait des élections en 80, quand je m'étais présenté. Et puis, notre député, c'était Richard Gay. Alors, j'avais été nommé conseiller à l'exécutif. Et quand le référendum est arrivé, ben là, ils ont transformé les exécutifs de comté en exécutif référendaire. Donc, on était devenu une espèce d'équipe de task force dans chacun des comtés qui était l'équipe référendaire. Mais ce qu'il faut comprendre, là, autant pour 80 que 95, Yannick, là, c'est que des référendums sur l'indépendance du Québec, là, il n'y en a jamais eu au Québec. Là. Si tu lis bien les questions, là, la question de 1980, c'était un mandat de négocier un nouveau partenariat avec le reste du Canada. OK? Il disait c'était quoi la souveraineté? C'est la capacité de faire toutes tes lois, de voter tous tes budgets, d'avoir tes propres relations internationales. Et l'association, c'était de développer un nouveau deal avec le reste du Canada. C'était de la souveraineté association en réalité. Le mot indépendance n'était pas dans la question de 80. Pas plus que dans le référendum de 95. 95, on parlait de souveraineté. On ne parlait pas d'indépendance. Et il y avait l'idée d'un partenariat avec le reste du Canada. Et c'est à ce moment-là que Parizeau a fait preuve d'une grande abnégation en disant « Je vais nommer comme négociateur en chef du Québec, en cas d'un oui, Lucien Bouchard. » Ça voulait dire aux Québécois, ben, si vous votez oui, on va envoyer Lucien Bouchard négocier avec les Anglais un nouveau deal, une espèce de nouvelle organisation politique au nord des États-Unis, où le Québec aurait peut-être une place un petit peu plus importante, le Québec aurait un peu plus de pouvoir, dans différents domaines, que ce soit en environnement, que ce soit en matière de travail, en matière de transport, en matière de technologie, le Québec aurait plus de pouvoir, mais il y aurait un partenariat à négocier. Dans les deux cas, les deux référendums, il y avait un partenariat ou une association avec le reste du Canada. Dans le fond, c'est une façon de casser cette espèce de j'appellerais ça une espèce de camisole de force, là, parce que la Constitution actuelle est à peu près impossible à modifier. Ça prend, je ne sais pas, je pense que c'est 7 provinces avec 50 % de la population, quelque chose du genre, pour la formule d'amendement de la Constitution. Fait qu'on est un peu pris là-dedans. On a l'impression que le Québec n'est pas capable d'évoluer en termes de pouvoir de passer des nouvelles lois et une forme de souveraineté à l'intérieur même du Canada comme province. Et une façon de casser ça, ben, c'est de donner un bon coup dans la ruche, là, puis de faire en sorte que le Canada commence à renégocier son partenariat avec le Québec sur la base de deux peuples fondateurs, si tu veux. Un ancien mythe qui a à peu près plus de valeur aujourd'hui. Ouais. Mais quand tu regardes ça sur l'aspect économique, ben écoute, même Parizeau disait que si le Québec votait oui au référendum éventuellement, il y aurait une secousse, là. Demain matin, il y a un appauvrissement, là. Il y a un appauvrissement qui va se faire. On ne sait pas de quelle nature, on ne sait pas de quelle importance, mais je pense pas que le lendemain d'un oui, le Québec va avoir une meilleure cote de financement, puis il va avoir une meilleure capacité de payer.
On est encore dans la stratosphère du rêve, puis je regardais la question, Maître Bellemare, de 1995, c'est « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir formellement offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de la loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. » C'est tellement compliqué. Puis je regardais les Québécois au niveau de la littératie. Là, on est dans les derniers peuples au Canada. On a de la difficulté à lire. C'est moins de 50% des gens qui sont capables de lire un texte avec des nuances puis être capables de vous le résumer. Imaginez-vous la question. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et de politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec de l'entente signée le 12 juin 1995? Ça veut dire rien, ça. Ça veut dire absolument rien.
L'entente du 12 juin, si mon souvenir est fidèle, c'était l'entente qui avait été faite entre Mario Dumont, chef de l'ADQ,
oui.
Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois, et Jacques Parizeau, chef du Parti québécois. C'était les trois ténors,
exact,
si tu veux, du camp du oui. Alors, c'était une entente. Alors, souverain, à condition que si. Alors, c'était ça un petit peu le deal. Alors, M. Parizeau, d'après ce que j'en sais, évidemment, c'était pas. Je l'ai connu dans un autre contexte, là, quand il avait contesté la loi sur l'assurance automobile, mais M. Parizeau, de ce que j'en sais, était plus ou moins d'accord avec l'une ou l'autre des questions. Même si c'était la question de 95, puis il est chef du camp du oui, il trouvait que la question était trop longue.
Ben oui.
Mais Bouchard puis Dumont souhaitaient plutôt qu'on intègre la question du partenariat avec le reste du Canada dans la question pour que les Québécois puissent comprendre que si vous votez oui, on s'en ira pas dans l'océan Arctique comme un iceberg en perdition, comprends-tu, là, qu'on ne sait pas où il s'en va, puis on va être complètement déconnecté du reste de la planète. On resterait quand même en Amérique du Nord, on serait quand même dans un espace territorial politique au nord des États-Unis, et on devrait composer avec ceux avec qui on a composé depuis 1867. Alors, M. Parizeau trouvait que c'était trop long. Il aurait voulu que ce soit « Êtes-vous d'accord pour que le Québec devienne un pays indépendant? » Ça aurait été ça, sa question. Mais là, il y aurait eu 32-33% des votes. Fait que je pense que Bouchard puis Dumont n'étaient pas intéressants à embarquer dans une patente qui n'allait pas marcher. Alors, eux autres, ils se disaient « On va s'organiser pour que ça soit le plus rassembleur possible. » Et le partenariat constituait une forme d'assurance, une forme de sécurité pour les Québécois qui étaient portés à dire oui. Puis écoute, ça a été, il y a eu 20 000 votes de différence entre le oui et le non. Là. Ça a été très, très, très serré, là, le résultat du vote. Mais ça a été une défaite pareille. Mais normalement, le lendemain du référendum, avec 49,4, je pense, % des voix, le lendemain des référendums était potentiellement positif dans le sens que M. Parizeau avait tout un rapport de force. Il aurait pu, à ce moment-là, essayer d'aller négocier quelque chose avec le fédéral, qui aurait pu donner, avec le Canada, qui aurait pu donner de meilleurs résultats que ce que René Lévesque a eu après la défaite de 80. On sait qu'en 82, là, il y a eu la Constitution qui a été rapatriée, la Charte des droits, tout ça nous a été rentré dans la gorge, on n'a jamais dit oui à ça, mais ça aurait peut-être été une façon de corriger un petit peu la situation. Mais avec sa phrase malheureuse sur les ethnies puis l'argent, bien là, évidemment, ça a comme cassé un peu le momentum. Puis ce que les Québécois ont retenu de M. Parizeau, ça a été ça, très malheureusement, parce que c'est un homme de grand talent et de grande conviction, mais il n'a pas eu des mots très heureux dans son discours de défaite.
Non, effectivement. En la semaine dernière, je parlais avec Catherine Genticor, qui est du Parti québécois, puis elle nous a mentionné que le livre bleu s'en venait, de Paul Saint-Pierre Plamondon, et dans ce livre bleu-là, tout sera expliqué de A jusqu'à Z, et je lui ai dit, ben, tu sais, demain matin, avoir une armée, ça va être compliqué, là. Demain matin, acheter des sous-marins, ça va être compliqué. Demain matin, acheter des tanks, ça va être compliqué. Si on décide de se séparer du Canada, la dette canadienne va devoir... Il y a une portion qui nous appartient, là. Tu sais, on a déjà été quoi? Presque 30 % du Canada. Là, on est autour de 22-23% du Canada. Ça va être quoi? C'est quoi la dette qu'on ajoute à la dette québécoise? Qu'est-ce que ça va représenter? Vous me parlez de décote tantôt. Ben, c'est sûr et certain que si on sort du Canada, ça se peut que les maisons ils réévaluent la cote. Puis ça se peut que ce soit plus difficile pour nous d'emprunter. Là. Ça va être compliqué tantôt. Fait que j'ai hâte de voir ce fameux livre bleu-là. Est-ce que c'est. Ça me fait penser au panier bleu. Je ne suis pas sûr que le nom est bien choisi, si on appelle ça le livre bleu. Mais bref, ça devrait sortir d'ici décembre, de ce qu'on a compris de Mme Genticor, mais ne l'a pas confirmé.
Oui, c'est ça. Je l'ai entendu, cette entrevue-là. Je pense qu'elle a dit qu'elle avait 10 ans au référendum, ce qui traduisait, oui. ce qui traduisait son âge. Mais il y a beaucoup de... Tu vois, moi, j'ai une fille de 24 ans, puis j'ai, une fille, j'ai un fils de 25-26 ans, bientôt. Et bon, alors, les jeunes, en tout cas, moi, ceux que je connais, ils sont plutôt favorables à la souveraineté. C'est sûr que ce n'est pas des caves non plus. Là, ils vont vouloir avoir un certain nombre de garanties, mais il y aura toujours un risque, Yannick, associé à ça. Là, tu sais, quand tu es en couple et tu te sépares, bien, c'est une forme de souveraineté. Finalement, chacun s'en va chacun de l'autre côté. Il y a une part de risque aussi. On ne connaît pas l'avenir, mais il y a toujours un certain appauvrissement pendant un certain temps qui suit le schisme. Mais je l'ai déjà dit dans une chronique récente, moi, je pense que la grande question qui se pose, c'est la question des jeunes. Parce que qu'est-ce que les jeunes pensent? Est-ce que les jeunes ont le goût d'un défi? Est-ce que, je parle des jeunes, là, surtout là, de 18 à 25 ans, là, les jeunes, là, ceux qui sont encore sur les bancs d'école, à l'université, au cégep, ou qui sont dans un emploi en début de carrière sur le marché du travail, qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont le goût de vivre une expérience comme celle-là? Qu'est-ce qu'ils pensent du français au Québec? Qu'est-ce qu'ils pensent de la survie de la nation québécoise? Parce qu'on sait que ça ne s'améliore pas, notre statut en termes démographiques. C'est même un peu épeurant. Là. Si tu regardes ça pendant une couple de générations encore, si on continue de décliner au plan de la langue et au plan de la démographie, je ne suis pas sûr qu'on va être encore bien fonctionnel comme peuple dans 50-60 ans. Là. C'est ça le problème aussi. Fait que les gens se disent... la souveraineté peut-être du côté national. Si on parlait juste de la question du groupe ethnique conforme, de la nation québécoise, il y aurait 90 % des gens qui voteraient oui. Mais la question qui se pose, c'est que c'est pas juste ça, c'est un choix économique aussi.
Exactement.
Comme il advient quoi de ta job? Il advient quoi de ton taux d'intérêt? Il advient quoi de ta monnaie? Ça va être quoi la pièce québécoise le lendemain d'un oui? Alors ça, les gens sont attachés à ça aussi. Il y a une certaine forme de confort puis d'assurance au plan économique. On vit dans un pays actuellement qui est le Canada, qui est un pays qui se porte, malgré les problèmes avec M. Trump, relativement bien. On a une certaine qualité de vie, un certain confort. On a des régimes sociaux qui ne sont pas parfaits, mais qui sont quand même soutenants en cas de difficulté. Alors, regarde, les Québécois, c'est tout ça qu'ils regardent. C'est pas juste... le français puis la nation, parce que si c'est juste de ça, les Québécois, ils veulent survivre, ils veulent être respectés, puis ils n'aiment pas ça quand le fédéral nous crache dessus, puis ils n'aiment pas ça quand il y a un gouverneur général qui parle juste anglais à Ottawa, puis ils n'aiment pas ça quand Doug Ford nous tire dessus, puis va chercher nos médecins. C'est sûr que les Québécois sont contre ça, puis ils sont fiers d'exister. Puis ils veulent avoir un développement culturel solide en français au Québec. Mais évidemment, il y a le choix à faire de la souveraineté. Si c'est ce qui se produit, bien là, il ne faut pas penser qu'il va y avoir un enrichissement, en tout cas pas à court terme.
Mais pensez-vous que ce serait le temps d'y aller avec la question référendaire? Je regarde, tout s'écroule autour de nous. On est encore en sécurité. Je pense que partout où on est au Québec, qu'on soit à Québec, Montréal, Sept-Îles, Drummondville, Trois-Rivières, La Beauce, en Gaspésie, on se sent en sécurité. Mais c'est-tu le temps de se séparer? Je me pose cette question-là. C'est quoi la hâte de vouloir se séparer alors que tout s'écroule autour de nous? Les infrastructures, Maître Bellemare, en santé, ça va pas bien. Les infrastructures au niveau des écoles, on se bat pour avoir des écoles qui ne datent pas de 1970-1980. C'est compliqué. On n'a pas d'argent. On est rendu qu'on met des enfants dans des unités temporaires pour qu'ils puissent suivre leur classe. Les infrastructures routières sont toutes à refaire pour la plupart. Puis des fois, on refait l'asphalte, puis 2-3 ans plus tard, il faut le refaire. Les milliards que ça nous coûte, qu'on dépense, on est-tu rendu là? Paul Saint-Pierre Plamondon n'aura pas le choix de reculer, parce que sinon, on s'en va sur un 4-7, Maître Bellemare. Là. On va y aller en route vers un quatrième référendum, parce que celui-là ne passera pas plus. On est autour de 30 %. Là.
Mm-hmm. Mais tu vois, je pense que la situation peut changer, on ne sait pas. C'est sûr que la question financière se pose. Mais il y a une dette au fédéral aussi. Trudeau, il a augmenté la fonction publique de quoi une centaine de mille, 125 000 fonctionnaires en 2015-2025. Le Canada il perd un peu des plumes dans le contexte de la guerre tarifaire avec les Américains. Est-ce que parce qu'il y a un appauvrissement au Canada aussi, là, toute notre industrie automobile, notre industrie, tout ce qui touche l'aluminium, le métal au Québec, l'agriculture, tout ça est menacé. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais si le gouvernement américain continue d'adopter la ligne dure avec le Canada, s'il y a des tarifs augmentés, s'il n'y a pas de nouveau deal sur le libre-échange et qu'on se retrouve appauvri considérablement en 2026, puis que la dette du Canada augmente en flèche, ça pourrait donner du gaz à l'option souverainiste. Là, oublie pas ça. Là. Là, on prend pour acquis que le Québec est plus pauvre que le Canada, qu'on a absolument besoin du Canada pour continuer de fonctionner comme on fonctionne là. Mais si le Canada s'appauvrit, ça pourrait arriver. Je ne sais pas, moi, M. Carney, ce qu'il nous promet pour 2026. Mais si les automobiles continuent d'être fabriquées aux États-Unis et qu'on continue de perdre en Ontario l'industrie automobile qui a été le fleuron des Ontariens, si le Québec s'appauvrit puis si les tarifs continuent d'être aussi élevés au niveau du métal puis au niveau de l'aluminium au Québec, si notre industrie aéronautique s'appauvrit aussi, bien là, les Québécois, à ce moment-là, pourraient considérer que le Canada est un peu moins attrayant qu'il l'était autrefois. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais ça peut virer assez vite. Hein. Puis l'humeur de l'électorat, là, c'est... Si Doug Ford se met à nous envoyer des messages pour aller chercher nos médecins puis qu'il continue de faire des conneries comme ça, bien, on va peut-être bien aimer un peu moins l'Ontario qu'avant, donc.
Est-ce que Doug Ford a véritablement nuit, vous pensez, à la relation entre Mark Carney et Donald Trump? Moi, j'ai l'impression que Carney était au courant de la publicité que Doug Ford était en train de mettre en place.
Ça se peut qu'il était au courant, puis probablement qu'il l'était. On dit que ses conseillers l'étaient. Ça ne veut pas dire que Carney doit l'approuver, la publicité ou non, mais c'est quand même pas le gouvernement du Canada qui a fait la publicité. Et moi, je pense que peu importe qui ait été favorable à la publicité de Doug Ford ou pas, il reste que ça nuit aux relations avec les États-Unis. Bon, on peut dire ce qu'on voudra de Trump, on peut dire que c'est un capricieux, puis c'est un intempestif, puis qu'il y a eu une réaction plus ou moins rationnelle, ça ne sera pas la première fois, mais c'est certain que ça n'a pas aidé. Et je pense que Carney, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir une économie intégrée dans le Canada au sein des 10 provinces des 3 territoires. Mais pour avoir une économie intégrée, il faut qu'il y ait de l'harmonie, comprends-tu? Il faut que les gens s'entendent, il faut qu'il y ait un projet commun. Il faut qu'on soit content d'être dans ce pays-là, puis qu'on soit content d'y contribuer, chaque province, au bien commun, pour faire face aux Américains.
Ouais.
Et je regarde ça, comment ça se développe, là, avec Daniel Smith en Alberta pour son pétrole, l'autre qui envoie sa publicité provinciale, qui n'est pas la publicité du Canada, qui amène Trump à mettre fin aux négociations. Je regarde le Québec là-dedans qui demande à Carney d'intervenir davantage puis qu'il n'y a pas toujours de réponse. Je regarde Doug Ford qui nous fait un petit finger avec le dossier des médecins. J'essaie de voir l'unité, j'essaie de voir... C'est sûr que quand Carney est arrivé au pouvoir, il y avait comme une espèce d'élan. On sentait là, que, bon, on va faire tomber les barrières interprovinciales, on va pouvoir acheter du gin de telle province, on va pouvoir lui vendre telle affaire, puis il n'y aura plus de taxes de ci, de ça, puis on va faciliter le transport interprovincial. Mais depuis ce temps-là, bien, il y a eu l'histoire des camionneurs ontariens tout croche qui viennent au Québec puis qui font des accidents sur l'autoroute entre Québec puis Montréal, qui a été un premier élément de froid. Il faut comprendre que les médecins, ce n'est pas la première fois que l'Ontario puis le Québec se chicanent. Là. Il y a eu aussi la question des camionneurs plus ou moins compétents qui venaient de l'Ontario dans des écoles bidons, puis qui venaient ici au Québec, puis qui provoquaient des accidents en violant nos lois. Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que cette espèce de fierté canadienne, unifiée, pour pouvoir faire face aux géants américains qui nous menacent et qui obtient des résultats dans ces menaces jusqu'à maintenant, parce que ça c'est rien de bon pour le Canada. Je cherche encore cette espèce d'élan-là, puis j'ai l'impression qu'il s'est relativement essoufflé. J'ai l'impression que M. Carney n'est pas capable d'aller chercher l'unité au sein de l'ensemble des provinces vers un but commun, comme il l'avait fait en campagne électorale. Je ne sais pas si tu te souviens, en campagne électorale, il y avait des meetings avec les premiers ministres provinciaux,
mm-hmm.
puis c'était la grosse affaire. Tout le monde sortait de là souriant, puis la tape dans le dos, puis tout le monde était content, puis même Daniel Smith était plus ou moins ouverte, était quand même à collaborer à ces meetings-là. Mais depuis l'élection, j'ai l'impression qu'il y a comme des fissures là, qui sont de plus en plus perceptibles entre les provinces, qui font en sorte que Carney va devoir, à un moment donné, ramener tout le monde à l'ordre et dire, bien là, on doit se mobiliser face aux Américains et on doit montrer une certaine unité. Là.
Je pensais à la rencontre que Mark Carney avait eue avec le président chinois. Il y a certaines provinces au Canada qui désirent faire rentrer des véhicules chinois au Canada, ce qui nuirait fortement à l'Ontario. Là, on va se le dire, il y a énormément de véhicules qui se bâtissent en Ontario. Puis Doug Ford veut absolument rien savoir de ça. Ce serait une catastrophe de faire rentrer des véhicules chinois. Peut-être que pour vous et moi, ce serait intéressant parce qu'on aurait accès à des véhicules qui sont quand même assez performants, beaucoup moins chers. À savoir si ça teste les passes si ça passe les tests de sécurité, ça, ce sera aux professionnels de nous le dire, mais ça détruirait l'industrie automobile au Canada. À partir du moment où on fait rentrer ces produits-là, ça serait à l'avantage de l'utilisateur, bien sûr, mais ceux qui dépendent de l'industrie automobile, ce serait une catastrophe. Et peux-tu y avoir aussi un mécontentement de la part de Doug Ford envers Mark Carney, justement, par le fait que Carney écoute certaines provinces plus que d'autres, puis serait intéressé à avoir ces 10 véhicules chinois-là? Puis je vous pose la question, conflit mondial, là, les Chinois sont fâchés. Ils peuvent-tu faire un shutdown avec les logiciels puis les mises à jour dans les chars qui ont de l'informatique de nos jours? C'est tous des enjeux particuliers qu'on a actuellement.
Oui, parce que tout le monde s'entend pour dire que si on laissait rentrer au Canada des véhicules chinois, ce serait moins cher. On aurait, comme tu dis, des véhicules qui sont... On n'est pas dans les Lada russes là, des années 80. Là. Je pense que la technologie s'est améliorée. Les produits chinois sont quand même assez bons. Mais il reste que... je me suis demandé si ça n'aurait pas un effet sur les relations canado-américaines aussi. Parce que les Américains sont des fabricants importants d'automobiles. Et puis, là, ils nous font de la marde, mais ils sont bien contents quand on achète des Chevrolet, puis des Ford, puis des véhicules américains, là. Alors, si on laisse rentrer, si on commence à développer des partenariats qui vont au cœur de l'industrie américaine, des fleurons américains comme l'industrie automobile, parce que l'industrie automobile, c'est quand même une industrie majeure aux États-Unis. Ça l'a toujours été depuis une centaine d'années. Alors, c'est à se demander. T'sais, quand tu dis que Trump met fin aux négociations avec le Canada parce qu'il y a une publicité qui sort, c'est pas grand-chose une publicité, Yannick, là. C'est juste un message à TV, là.
Oui.
C'est niaiseux, là, mais c'est une prétention de publicité. T'sais, c'est un message. L'Ontario qui publie des extraits de discours de Ronald Reagan, qui est une icône au niveau de la droite américaine encore aujourd'hui, et qui dit que les tarifs, c'est pas bon. En tout cas, l'extrait qu'on voit dans la publicité, là, ça a l'air que c'est peut-être pas tout à fait ça qu'il aurait dit. En tout cas, c'est un peu dénaturé, mais peu importe, il reste que c'est une publicité qui est excellente. Et Doug Ford a raison de dire que c'est une des meilleures publicités qu'on a eues en Amérique du Nord. Sauf que ça a fait en sorte que Trump a mis fin aux négociations. Imagine-toi, demain matin, il rentre 5 000, 6 000 véhicules chinois au Canada, et c'est d'autant de véhicules américains, peut-être pas 5 000, 6 000, mais disons que Les 5 6 000 personnes au Canada qui vont acheter des véhicules chinois, il y en a peut-être 2 3 000 là-dessus qui auraient acheté des GM ou des Buick ou des Chevrolet. Là. Et c'est sûr que ça aurait un effet sur l'économie américaine. Là. Et puis, ça aurait un effet sur l'image aussi. Il faut comprendre que Trump, c'est un grand émotif. Là. Lui, c'est surtout moi, son image. Il y a des... Dès qu'il y a une blessure narcissique, là, dès qu'on sent que ça touche à son ego, à son image, il se fâche, puis il y a des sanctions. Alors, est-ce que ça ne serait pas là, si les véhicules chinois rentrent au Canada, une espèce de prétexte pour être encore plus chien sale avec nous autres?
Ah, c'est sûr qu'il en profiterait. J'ai pas l'impression. On dit que c'est quelqu'un qui est prompt à réagir, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a de grandes émotions. Il voit juste des opportunités. Dans son livre « The Art of the Deal » qui est écrit dans les années 80, là, c'est tout le temps ça. On voit une opportunité, on veut négocier, faut faire peur, faut écraser, faut demander encore plus. Puis à partir du moment où l'individu est déstabilisé, bien, c'est là que tu commences à dealer, puis ça va être à ton avantage. Il applique exactement la même recette. Puis Carney, j'espère qu'il l'a lu ce livre-là parce qu'il est en train de s'en faire passer un petit « The Art of the Deal ». Je peux vous le dire, on a de l'air des petits minous qui se font pourchasser par les gros loups dans la forêt. Puis nous, on est les petits minous. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je rappelle aux auditeurs que, comme à chaque lundi, on a le plaisir de jaser avec Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice. Il est avocat. Il est spécialisé dans les dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNSST. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Le pit stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45. pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le Pit Stop. Le Pit Stop.
Avant de mes gars, dit Yann, j'ai réservé l'hôtel pour le tournoi du...
Mon plus jeune.
Ouais. Parce que c'est moi qui monte au tournoi, mais c'est pas moi qui réserve. Fait qu'elle me dit, tu me dois 700$. Pardon? 5 repas.
Elle a pris le penthouse.
Ben, c'est au début de l'année, les parents, on est niaiseux aussi. Voulez-vous des tournois? Oui, oui, oui. En voulez-vous un troisième? Oui, oui, oui. Puis là, les factures rentrent, tu fais oh.
Quand elle m'a envoyé, tu me dois 700$, tu comprends que j'étais en train d'écrire je n'ai pas les moyens. Est-ce que je peux aller dans un motel 15 minutes? Des siestes, là?
Le Pit Stop 7h45 à Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine.
Le compte de 1, de 2 et de 3. Une autre victoire de Boulevard 102.1 contre la faim.
On t'attend le 21 novembre prochain au Centre Horizon pour le gala spécial Luttons contre la faim, deuxième ronde. Mettant en vedette nul autre que... Yannick Masson!
Oh oui, c'est moi, Antonine. 100% des ventes de billets seront versées à la bouchée généreuse. Tu peux pas manquer ça. Virginie Gagnon, mon amie, va essayer de me battre, de me donner une volée en compagnie de plusieurs combattants de la NSPW.
On te promet une ambiance de feu et le sentiment de fierté de contribuer à une bonne cause.
Fait que t'attends quoi? Achète tes billets dès maintenant au pointdevente.com, section NSPW.
Chez Antirouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Si tu vas à l'événement d'équipement usagé de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, ben toi aussi, tu pourrais siffler en travaillant.
Un nouveau joyau voit le jour à Québec. La Perle, condo locatif. Livré le 1er juillet 2026 et soigneusement intégré au quartier Mosaïque. La Perle offrira des condos locatifs à l'ambiance et au design contemporain où chaque détail a été pensé pour vous. Pour découvrir ce trésor naturel qui prône l'art de vivre en plein cœur de Le Bourgneuf et pour obtenir votre privilège de réserver votre unité, rendez-vous sur vivrelaperle.com dès maintenant. La Perle, un joyau de condos locatifs à Québec.
Local, naturel et livré directement chez toi. C'est ça, Alimentation FC. Plus de 300 coupes de viande, nature, marinée ou farcie et le tout à prix gelé pour un an. Qualité garantie à 100%. Alimentation FC, la viande sans compromis. AlimentationFC.com.
Les soirées se rafraîchissent. Enviro Confort vous accompagne avec des solutions complètes. Thermopompe performant, accumulateur de chaleur et même la géothermie pour un confort durable. Profitez dès maintenant de nos promotions spéciales de fin de saison. Vous chauffez encore au mazout? C'est le moment idéal pour faire le changement et obtenir vos subventions avant la date limite. Enviro Confort, certifié choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation à Québec et Lévis.
Télio Assurance, c'est aussi des assurances spécifiques pour les entreprises. Avec notre département PME et commercial qui travaille pour développer vos solutions d'affaires, qui couvre plusieurs secteurs d'activité et types d'entreprises, nous avons les meilleures solutions pour protéger vos biens et vos actifs. Nous proposons aussi une gamme de programmes spécialisés tels que cyber-risque, camionnage et programmes d'hébergement touristique et de tout genre pour la location court terme. Chez Télio, on se mêle de vos affaires. Visitez telioassure.com.
Simplifiez vos achats des fêtes avec Club Jouet. Jusqu'au 31 décembre, à l'achat d'un jeu Ludo et Méninges, recevez gratuitement le livre Les petits malins, grands parleurs, petits faiseurs, une valeur de $14.95. Des cadeaux qui font sourire petits et grands. Clubjouet.com.
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais!
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres!
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres sur Mercado.fm.
Obtenez une entrée pour deux personnes d'une valeur de $84 pour $42 chez Défi Évasion. Et une visite animée Crime en Nouvelle-France d'une valeur de $50 à $25 chez Promenade Fantôme.
Mercado.fm, un verger de rabais.
Allô, c'est Marie-Pierre Morin. Vous avez envie de passer un bon moment entre amis? Venez faire un tour au Salon national de la femme de Québec les 15 et 16 novembre prochains. En arrivant au centre de foire, passez au kiosque Buick. Vous y découvrirez le Buick Envista. C'est mon véhicule et c'est un vrai coup de cœur. Également sur place, le Buick Envision, un VUS raffiné et pratique, parfait pour vous. Les 15 et 16 novembre, c'est la fin de semaine idéale pour décrocher, s'inspirer et peut-être tomber en amour avec votre prochain véhicule Buick, au Salon national de la femme de Québec.
Chez SFL, on est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Tous les patrimoines. Ça, un patrimoine, c'est l'ensemble de vos biens et de votre argent, entre autres. Et on s'occupe de gérer
les gros patrimoines qui s'accumulent depuis des années.
Tout comme les petits patrimoines qu'on commence à bâtir. Alors, que ce soit pour vos placements, vos finances, vos assurances ou votre entreprise, le futur se planifie plus facilement quand on y pense dès maintenant. SFL Gestion de patrimoine. Découvrez-nous au sfl.ca.
Un mal de dos peut vous suivre toute votre vie. Une souffleuse Honda aussi. Cet hiver, faites le bon choix. Adrénaline Sport Honda.
Qu'ont en commun un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur? Ben c'est tout du monde qui aime se siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement son événement d'équipements usagés. Ils ont toutes les marques. Ils offrent en plus des rabais comptants, du financement, des crédits bail et même des garanties. Ils font aussi un événement de réduction d'inventaire neuf. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare est spécialisé dans les dossiers de CNSST, la SAAQ ainsi que l'IVAC. C'est bellemareavocat.ca pour avoir plus d'informations si vous avez des questions, si vous avez des besoins. Maître Bellemare, comment ça se passe les délais? Parce qu'on sait qu'au niveau criminel, les délais en justice sont très, très longs. Même au niveau des gens qui se poursuivent entre eux, c'est très, très long aussi. Dans le dossier de la CNSST, la SAAQ, l'IVAC, pour ce qui est des réclamations, est-ce qu'on est encore là-dedans, là, des mois et des mois?
Ouais. Ouais. Des délais de réclamation. Tu as été victime d'un accident d'auto, tu as 3 ans pour réclamer à la Société de l'assurance automobile. Et je te le dis parce qu'il y a des gens encore cette semaine, j'ai reçu 2 personnes, qui n'avaient pas réclamé dans les 3 ans. Mais j'ai dit, coudonc, vous vivez sur quelle planète, là? Vous êtes blessé ou vous êtes à l'hôpital pendant 8 jours.
Ouais.
Vous avez des séquelles permanentes, vous n'avez jamais réclamé à la Société de l'assurance automobile. Bien, on ne savait pas, nous autres, qu'on pouvait réclamer. Alors, je te le dis parce qu'il y a encore des Québécois, même si cette loi-là est en vigueur depuis 1978, là, ça fait 47 ans, c'est 3 ans. À la CNSST, pour un accident de travail, il y a 2 formes de délai. Il y a un délai de 6 mois pour réclamer pour un accident ou un décès. Hein, si tu es victime, je ne sais pas, moi, tu sors du studio tantôt, là, puis tu t'enferges d'un fil, puis tu te blesses un genou, quelque chose, tu as 6 mois pour réclamer.
Ouais.
Si c'est une maladie professionnelle, comme par exemple, tu travailles dans un milieu bruyant, puis tu as développé un problème de surdité, tu travailles comme ferblantier, tu as développé des problèmes au niveau de tes poignets, tu es un briqueteur, tu as développé des problèmes au niveau de tes épaules, je te dis ça parce que c'est courant. Mais tu as 6 mois à partir du moment où tu sais qu'il y a une relation entre ton travail et la blessure. Alors, ce n'est pas 6 mois à partir de l'accident parce qu'il n'y a pas d'accident. Donc, c'est important quand le docteur te dit, je pense, mon chum, là, que tu t'es blessé, tu t'es brisé les épaules à force de travailler comme briqueteur, bien, ce jour-là, tu as un délai de 6 mois pour réclamer. Puis, dépêche-toi parce que les employeurs le savent. Puis si tu ne réclames pas dans un délai de 6 mois, la CNSST va te refuser. Puis si tu contestes le refus de la CNSST, tu vois, les employeurs d'impact, eux autres, ils vont gosser sur la connaissance. Quand est-ce que tu l'as su? Quand est-ce qu'un médecin t'en a parlé? Du côté de l'IVAC, il y a aussi un délai de 3 ans. On a essayé d'harmoniser ça au niveau des recours civils, tu sais, en responsabilité civile, là. Ouais. Tu as un délai de 3 ans. Si tu tombes sur le trottoir, tu peux poursuivre la ville, si tu peux prouver qu'il y a une négligence, dans un délai de 3 ans. On appelle ça une prescription. Ce n'est pas une prescription médicale comme le docteur qui te donne ça pour des pilules, là. C'est une prescription, c'est un terme juridique qui veut dire un délai pour pouvoir exercer un recours. Alors, depuis 1994, depuis le nouveau Code civil, même si ça fait plus de 30 ans qu'il existe, on a comme harmonisé l'ensemble des délais. C'est maintenant un délai de 3 ans que tu as pour poursuivre quelqu'un qui t'a causé un dommage. Puis si c'est de la diffamation, bien, c'est un délai d'un an. C'est encore plus court. Fait que si quelqu'un t'a traité de gros caca, là, t'as 1 an pour le poursuivre et non pas 3 ans comme pour la majorité des autres recours.
OK. Donc, quand on parle de poursuite, là, si j'ai 1 an pour le poursuivre, bon, au 11e mois, là, je décide de poursuivre l'individu ou je décide de poursuivre la ville, c'est quoi les délais d'attente avant de passer en cours?
Ah, bien, ça dépend si c'est la Cour du Québec. Ça dépend du montant. La Cour du Québec, c'est un certain montant. La Cour supérieure, c'est un autre montant plus élevé. Mais écoute, les procès, il y a deux façons de régler une cause, ou par règlement ou par jugement. Alors, quand le règlement, c'est qu'il y a une entente entre les deux parties, comme quoi ça vaut à peu près 100 000 $, on va te donner 80 000 puis ça va régler le problème, puis tu dois sauver les inconvénients d'un procès, puis ton dossier est réglé. À ce moment-là, c'est un règlement hors cours. L'autre façon, s'il n'y a pas d'entente ou de règlement hors cours, à ce moment-là, c'est l'ensemble des procédures, les interrogatoires, la production des expertises, les échéanciers et éventuellement le procès. On fait beaucoup de dossiers d'assurance ici au bureau chez Bellemare Avocat. Je te dirais qu'en général, là, les causes se règlent à l'intérieur d'un délai entre un an et demi puis deux ans et demi si on regarde des questions médicales particulièrement, comme des assureurs. Là.
Mais quand même, Maître Bellemare,
c'est long.
Là.
C'est long à tabarnouche. Pendant ce temps-là, tu t'appauvris. Puis écoute, les dossiers en matière d'accident de travail, là, quand tu contestes une décision de la CNESST devant le tribunal administratif du travail à Québec, là, c'est des délais de 12 à 18 mois là, en général. Là. Puis les gens me demandent souvent, les accidentés, « Maître Bellemare, je fais quoi en attendant? » Mais là, je leur explique que moi, je ne suis pas un gestionnaire. Moi, je ne gère pas des portefeuilles, je gère des causes. Mm-hmm. C'est pas moi qui, je ne suis pas un conseiller budgétaire, moi, là, mais j'ai fait comprendre qu'avant 15 mois, il ne faut pas qu'il s'attende à avoir des résultats pour avoir une scène dans son compte de banque.
Ah, mais ça, doit des... ça doit être des
là,
drames.
Il demande à des gens de l'aider. Là.
C'est doit être des drames épouvantables là, que vous avez dans le cabinet. Là.
Oui, oui, c'est ça.
Parce que c'est pas tout le monde qui a un coussin de 15 mois dans son compte en banque, là, Maître Bellemare.
C'est ça. Alors, il faut leur faire comprendre qu'ils sont dans une mauvaise situation parce que non seulement ils n'ont pas d'argent qui rentre parce qu'ils ne travaillent pas puis ils n'ont pas d'indemnité parce que la CNSST dit qu'ils ont pas mal dans le dos ou que c'est pas relié à l'accident ou ils ont toutes sortes de raisons de ne pas payer. Mais en plus de ça, les gens ont des dépenses parce que, tu sais, quand tu rencontres un orthopédiste qui va évaluer ton genou, ton épaule, pour faire un lien avec le travail, avec l'accident, puis dire que tu ne peux pas travailler, bien, ça coûte entre 3 000 et 5 000 $ une expertise orthopédique, là. Puis si c'est une dépression, par exemple, que tu fais en lien avec ton accident, c'est un psychiatre qui va t'évaluer, ça coûte entre 3 000 et 5 000 $ dans la région de Québec. Et dans la région de Montréal, c'est peut-être un petit peu plus cher. Alors, oui, ça coûte assez cher, finalement, pour faire valoir tes droits. Puis même si tu gagnes contre la CNSST, ces frais d'expertise-là puis les frais d'avocat que tu auras assumés ne seront pas nécessairement remboursables, même en cas de victoire, là. Alors, le système est fait pour le gouvernement. Je peux te dire une chose, quand le gouvernement du Québec adopte une loi pour soutenir les Québécois qui ont eu des accidents d'auto, des accidents de travail ou des victimes d'actes criminels ou la retraite Québec, il y a des belles lois, puis on va soutenir les gens, puis on va s'en occuper, mais quand c'est le temps de les appliquer, tu cognes à la porte, il n'y a pas grand monde qui répond. Hein? Puis quand souvent, ils vont refuser de t'indemniser en disant que tu n'es pas assez malade ou que si tu es malade, ce n'est pas à cause de l'accident que tu as subi. Alors, si ça t'arrive, ben à ce moment-là, tu peux faire valoir tes droits, mais c'est un parcours du combattant.
Ouais. Puis les petites créances sont encore aussi longs aussi ou ça s'est amélioré?
Un petit peu amélioré à cause de la question de la médiation, parce que le ministre Jolin Barrette a introduit des mécanismes de médiation qui font en sorte que c'est un petit peu plus court, parce que chaque cause qui se règle à l'amiable, les parties commencent à se parler, chaque cause qui se règle à l'amiable, mais ça fait en sorte qu'il y a une cause de moins sur le rôle qui fait en sorte que ta cause va passer plus vite. Mais c'est encore assez long. Les délais de cours, c'est des plaies sociales. C'est difficile à supporter. Puis on parle souvent des délais dans les hôpitaux parce qu'on a des films, hein? On a des images de monsieur, madame qui attend sur un lit à l'urgence. On n'a pas ces images-là dans un palais de justice, mais il y a encore pas mal de délais quand même.
La semaine dernière, j'ai un ami qui a demandé une demande d'injonction. Ça a été très rapide. Qu'est-ce qui fait que les demandes d'injonction, ça va à la vitesse éclair?
Bien, c'est des requêtes. C'est pas sur le même rôle. C'est pas des procès avec témoins. On parle d'un pourvoi en injonction, d'un recours extraordinaire. Il y a comme un fast-track de ce côté-là pour okay. Ce type de procédure-là. C'est un petit peu plus court. Et souvent, il y a très peu de témoins, puis ça passe devant une division de pratique au palais de justice, et c'est un petit peu plus rapide, c'est des mécanismes à cause de la nature même du recours. Mais la procédure traditionnelle où tu poursuis un assureur qui ne veut pas te payer ou que ta maison passe au feu, ou tu poursuis un courtier en immeuble qui t'a mal représenté, ou tu poursuis quelqu'un pour diffamation, bien ça, c'est des causes qui sont longues et qui vont qui vont passer par la procédure habituelle qui est relativement compliquée. Il faut comprendre que dans toutes les causes, tu as un avocat qui est pressé parce que lui représente la demande. Tu as un avocat qui l'a un petit peu moins parce que lui représente la défense. Alors, c'est pas tout le monde qui pousse pour que ça soit rapide. Là. Dans certains cas, on a l'impression qu'il y en a qui sont bien servis par les délais de cour. Plus tard, tu payes. Plus tard, ton adversaire va s'essouffler. Puis plus tard, il va s'appauvrir. Et souvent, on a l'impression que c'est pas l'épuisement des recours qu'on recherche, mais c'est l'épuisement de la victime. Alors, ça prend un avocat qui est solide puis qui est capable de motiver son client.
Oui, mais faut pratiquement avoir des facultés de psychologue aussi quand on est avocat, on va se le dire, là, pour essayer de calmer vos clients parce qu'ils doivent être extrêmement stressés, ils doivent avoir des difficultés financières, comme vous le mentionnez. Fait que d'essayer de leur faire comprendre que, bon, un jour, tout ça va débloquer puis ça va bien aller.
Si on confiance en toi comme avocat, puis si tu leur donnes leur juste en partant, puis tu dis, écoute, avant tel délai, attends-toi pas à avoir des résultats, ça va être difficile, mais moi, je vais travailler pour toi. On va faire équipe, puis on va donner au juge le maximum de raisons pour nous donner raison. Et si tu es clair dans tes pronostics, si tu as confiance en toi, si tu as une bonne réputation, si tu as la réputation de dire honnêtement les pourtours du recours, à ce moment-là, ça va rassurer les gens, puis souvent, ça va faciliter beaucoup ton travail, puis ils ne t'appelleront pas 3 fois par semaine pour te demander s'il y a une bonne cause. Tu sais?
Effectivement. Ça prend une bonne oreille. Maître Marc Bellemare, on se reparle lundi prochain. Je souhaite de passer une agréable soirée, de même qu'à nos auditeurs sur les ondes. Et on se reparle demain à la même heure. Merci, Maître Bellemare.
Parfait. Bonne semaine.
Bonne semaine. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1 célèbre ses 10 ans avec la Gravel édition 10 ans Boulevard. Une bière blonde lager à 4,4%, légère, dorée et ultra rafraîchissante. Brassée par Malco, la brasserie de Charlevoix reconnue pour ses produits de qualité. Une partie des profits des ventes sera remis à la bouchée généreuse pour aider les familles dans le besoin. Procure-toi la Gravel dès maintenant en quantité limitée chez Chaloux, panier extra, à la brasserie Malco située au marché Jean-Talon, ainsi que d'autres détaillants de la grande région de Québec. Cheers!
Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Notre système de santé est magané.
Bon, l'équipement est encore brisé. Il faut reporter la chirurgie. Travailler dans ces conditions-là, c'est malade.
Et pour passer à...
Wow, c'est malade! Chérie, le médecin vient de m'appeler. Mon opération a été devancée. Yeah!
Il faudrait que le gouvernement donne aux médecins spécialistes les moyens de garder notre système en santé. Et ça, ce serait vraiment malade. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Cette semaine, chez Métro, pour l'Halloween, c'est le temps d'économiser sur plus de 7500 produits en magasin et en ligne. Le bœuf haché maigre au format économique est à 4,99 la livre ou 11 $ le kilo. Le sac de 3 litres de clémentine est à 2,97, ce qui revient à 99 sous la livre. Et la douzaine d'œufs blancs sélection est à 2,99. C'est tellement pas cher que ça donne la chair de poule. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Les conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Chaque soir, on allume Noël. Elle Fiction lance Noël Fiction. Plus de 100 téléfilms romantiques et des centaines d'heures d'émotions de Noël. Fais entrer la magie de Noël chez toi. Abonne-toi à Elle Fiction. De grandes émotions, tous les jours.
Salut Karine! Est-ce que ça va bien?
Oui, Vincent, mais pourquoi on est aussi rock?
Parce que ça prend une autre en matière que du mordant. Le nouveau Rogue Rock Creek 2026 est arrivé.
Oh, avec son allure robuste, ses caractéristiques tout-terrain et la traction intégrale de série? OK, on repart ça. 3, 4!
Le nouveau Nissan Rogue Rock Creek est maintenant disponible à la location à partir de 1,9% jusqu'à 36 mois.
Inclus réduction fidélité pour propriétaires Nissan admissibles jusqu'au 1er décembre sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Boulevard.
Si t'as déjà gamé, tu sais comment peser pause puis play. C'est de même que ça marche la web radio de Boulevard au blvd.fm.
Boulevard 102.1. It's in the game.
Économisez 150$ sur les lunettes chez Gretsch et Scaff. Jusqu'au 22 décembre, économisez 150$ à l'achat d'une paire de lunettes complètes avec verre et monture de grande marque. Chantal Gravel, opticienne. Apportez votre prescription ou réservez votre examen de la vue sur gretsch-scaff.com.
Je bouge pour être bien dans mon corps et dans ma tête, pour conserver mon autonomie, pour rester chez moi longtemps et pour continuer à jouer avec mes petits-enfants. Et bouger à mon âge, ça peut être simple. Je sors marcher dehors, je choisis parfois l'escalier plutôt que l'ascenseur, ou je fais une activité qui me plaît, comme le vélo, la danse ou le tai chi. Je l'intègre à mon quotidien, pour moi et pour ceux que j'aime. Bouger plus, vieillir mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Les 7, 8 et 9 novembre, méga liquidation d'inventaire chez Passe-Temps 3000. Du jamais vu. 15 à 25 % de rabais, surtout en magasin à prix régulier. Casse-tête, jeux téléguidés. Les 7, 8 et 9 novembre, 15 à 25 % de rabais, surtout chez Passe-Temps 3000, rue Soumande.
L'information locale est essentielle. Elle contribue au maintien d'une saine démocratie. Pour savoir ce qui se passe chez vous, pour prendre des décisions